Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1936, cet ouvrage majeur de John Maynard Keynes est un traité de théorie économique qui refonde la macroéconomie autour du problème du chômage involontaire. Écrit dans le contexte de la Grande Dépression, il conteste la confiance classique dans un retour automatique au plein emploi par la baisse des salaires, la flexibilité des prix et le libre jeu des marchés. Keynes étudie ensemble la production, les revenus, la consommation, investissement, monnaie et taux d'intérêt afin de comprendre pourquoi une économie peut rester durablement sous son potentiel. Son objectif est de montrer que le niveau de emploi dépend avant tout des dépenses anticipées par les entreprises plutôt que des seules capacités productives. Le livre élabore ainsi les notions de demande effective, propension à consommer, efficacité marginale du capital et préférence pour la liquidité. Dense et parfois technique, il constitue moins un manuel de recettes immédiates qu'une architecture analytique pour penser les crises et les politiques publiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la demande effective explique pourquoi le chômage peut durer. Le point de départ de Keynes est le principe de demande effective. Les entreprises ne décident pas de produire selon une offre qui trouverait toujours naturellement ses acheteurs. Elles choisissent un volume de production et de emploi en fonction des recettes qu'elles anticipent. Si elles prévoient des ventes insuffisantes, elles réduisent production, embauche et commandes, même lorsque des travailleurs souhaitent travailler au salaire courant. Le chômage ne résulte donc pas nécessairement de salaires trop élevés ou de défauts individuels sur le marché du travail. Il peut provenir de dépenses globales trop faibles. Cette analyse inverse la causalité classique entre emploi et revenu. Pour Keynes, une hausse emploi accroît le revenu distribué, puis la consommation, ce qui peut valider des décisions de production plus ambitieuses. Toutefois, cette dynamique dépend aussi de la part du revenu consommé et de la réaction d'investissement. Le niveau d'équilibre peut ainsi être inférieur au plein emploi sans mécanisme spontané suffisamment puissant pour le corriger. Cette conclusion donne une base théorique aux politiques destinées à soutenir la dépense en période de récession. Elle oblige surtout à analyser les anticipations des producteurs et les composantes de la demande totale, au lieu de traiter le chômage comme une simple anomalie passagère. Deuxièmement, la consommation est le multiplicateur relie dépenses initiales et revenus total. Keynes distingue la consommation des ménages de investissement et fait de la propension à consommer un élément central. Lorsque le revenu augmente, la consommation augmente généralement aussi, mais moins que proportionnellement, car une part du revenu additionnel est épargnée. Cette relation a une conséquence macroéconomique décisive. Si les entreprises ne compensent pas cette épargne par davantage d'investissements, la demande globale risque de devenir insuffisante. Le multiplicateur décrit alors la propagation d'une dépense autonome dans l'économie. Une commande publique, un investissement privé ou une dépense extérieure procure un revenu initial à certains agents. Une partie de ce revenu est consommée, devient le revenu de autres agents, puis engendre de nouvelles dépenses successives. Le revenu final peut donc croître davantage que la dépense initiale. Son ampleur dépend de la propension à consommer, plus celle-ci est forte, plus les vagues de dépenses sont importantes. Le mécanisme ne signifie pas que toute dépense produit sans limite des effets bénéfiques. Il suppose des ressources inutilisées et une réponse de la production. Près des capacités maximales, une stimulation supplémentaire peut davantage accroître les prix que l'emploi. Le raisonnement fournit néanmoins un cadre pour comprendre pourquoi une baisse simultanée des dépenses privées peut amplifier une récession. Troisièmement, la décision d'investir dépend des anticipations et du taux d'intérêt. Dans cet ouvrage, investissement ne découle pas mécaniquement de l'épargne disponible. Keynes soutient que les entreprises comparent le coût de acquisition d'un actif productif avec les revenus futurs qu'elles en espèrent. Il nomme efficacité marginale du capital le rendement anticipé associé à cet actif. Cette anticipation est incertaine car elle repose sur des prévisions de vente, de coûts, de techniques et de conjoncture. Le taux d'intérêt intervient comme coût de financement et comme rendement alternatif de la détention de titres. Un projet sera engagé si son rendement anticipé paraît suffisant au regard de ce taux. Mais une baisse du taux ne garantit pas une reprise lorsque les perspectives de profit sont très dégradées. Cette place accordée aux anticipations rend compte de l'instabilité de l'investissement. De petites révisions de confiance peuvent provoquer de fortes variations de dépenses, puisque l'investissement est plus volatile que la consommation courante. Or, ces variations influencent directement la demande effective et, par le multiplicateur, le revenu et emploi. Keynes rompt ainsi avec une vision où le taux d'intérêt assurait automatiquement égalité entre épargne et investissement. Dans son cadre, épargne est surtout ajustée par les variations de revenus, tandis que investissement dépend de calculs prospectifs fragiles. Les politiques économiques doivent donc considérer à la fois les conditions financières et les perspectives concrètes de débouchés. Quatrièmement, la préférence pour la liquidité donne à la monnaie un rôle réel. Keynes rejette l'idée selon laquelle la monnaie serait seulement un intermédiaire neutre des échanges. Les agents peuvent vouloir conserver une part de leur richesse sous forme liquide, plutôt que acheter des obligations ou financer des actifs moins immédiatement disponibles. Cette préférence pour la liquidité répond notamment aux besoins de transactions, de précautions face à incertitudes et de spéculations sur évolution future des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt devient alors le prix qui équilibre, dans certaines conditions, le désir de conserver de la monnaie et la quantité de monnaie disponible. Cette conception relie directement la sphère financière aux décisions réelles de investissement et de emploi. Elle explique aussi pourquoi une politique monétaire peut rencontrer des limites. Lorsque les taux sont déjà très faibles et que les agents anticipent leur remontée, ils peuvent préférer accumuler des encaisses plutôt que détenir des obligations. Dans une telle situation, souvent appelée « trappe à liquidité », augmenter la quantité de monnaie ne suffit pas nécessairement à faire baisser davantage les taux ni à déclencher investissement. Le livre ne réduit donc pas la monnaie à une commande simple de activité. Il montre que les comportements de portefeuille, les conventions financières et incertitudes peuvent bloquer la transmission monétaire. Cette analyse justifie attention accordée aux instruments budgétaires lorsque la confiance privée et la demande de crédit restent faibles. En dernier lieu, la critique de l'ajustement automatique fonde une politique contracyclique. La théorie générale conteste plusieurs mécanismes supposés ramener spontanément l'économie vers le plein emploi. Keynes doute que la baisse des salaires nominaux puisse résoudre une insuffisance de demande. Elle peut réduire les revenus des ménages, alourdir le poids réel des dettes et renforcer les anticipations défavorables. Une baisse généralisée des coûts ne produit pas automatiquement davantage de dépenses. De même, la modération salariale d'un secteur peut améliorer sa position relative. Mais sa généralisation modifie le revenu global et doit être évaluée à échelle de l'économie entière. Cette méthode de raisonnement agrégé est une contribution essentielle du livre. Elle met en évidence des résultats collectifs qui diffèrent des comportements rationnels à échelle individuelle. Comme le paradoxe de épargne vouloir épargner davantage peut diminuer le revenu total si investissement ne n'augmente pas. La conséquence pratique est la légitimité de l'intervention contracyclique. En phase de sous-emploi, les dépenses publiques peuvent soutenir la demande, tandis que des conditions monétaires plus souples peuvent faciliter l'investissement. Keynes ne propose pas une dépense publique permanente et indifférenciée, mais une réponse au déficit de demande et à l'incapacité du secteur privé de stabiliser seule activité. Son apport durable est de faire de l'emploi un objectif macroéconomique explicite, plutôt qu'un résultat présumé automatique de l'équilibre des marchés. En conclusion, cet ouvrage convient aux étudiants en économie, aux lecteurs de l'histoire des idées, aux responsables publics et à toute personne souhaitant comprendre les débats sur chômage, relance budgétaire, taux d'intérêt et crise financière. Sa lecture demande de la patience, la terminologie est rigoureuse. La construction argumentative est parfois exigeante et plusieurs formulations appartiennent au contexte intellectuel des années 1930. En contrepartie, le lecteur acquiert les instruments nécessaires pour distinguer une insuffisance de demande, un problème de financement, une crise de confiance et une contrainte productive. Il comprend aussi que les décisions individuelles de consommer, épargner ou différer investissement peuvent avoir des effets collectifs non intentionnels. Comparé au manuel moderne de macroéconomie, le livre est moins pédagogique dans sa présentation et moins formalisé mathématiquement. Il se distingue pourtant par son ambition théorique. Keynes ne se contente pas de recommander une action publique en période de crise. Il reconstruit les liens entre revenus, emploi, monnaie, incertitude et finances afin de démontrer pourquoi une économie de marché peut demeurer durablement sous-employée. Cette articulation entre analyse des anticipations et analyse agrégée explique sa place singulière. Lire le texte permet de dépasser les usages simplifiés du terme keynésien et de mesurer les conditions, les limites et la logique des politiques de stabilisation. Si vous souhaitez soutenir John Maynard Keynes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.